Bienvenue pour ce 21e épisode d'Impact Factor 1000, le podcast qui vous vulgarise l'actualité scientifique. Nous sommes le 17 septembre 2021. Du coup, on va publier effectivement deux semaines après le 20e épisode d'Impact Factor 1000, ce qui est quand même pas mal.
Ça, c'est bien.
Ouais.
Je suis avec Marion.
Bonsoir.
Et avec Antoine.
Bonsoir.
Comme d'habitude, je vais vous demander de résumer vos sujets en deux mots. Donc, Antoine.
Stradivarius et bois.
Marion.
C'est un secret.
Donc, voilà. Et quant à moi, ce sera vache et toilette. Et du coup, je vais me tourner vers Marion qui nous fait durer le suspense de son sujet depuis si longtemps.
Depuis quelques jours maintenant.
Oui.
Du coup, je vais vous faire écouter des sons. Et vous allez me dire ce que c'est comme son. À quoi ça vous fait penser.
Ok.
Donc c'est nous qui devons te dire tes mots, c'est ça?
Non, les mots je les dirai après.
D'accord.
Faut juste que vous me disiez ce que sont ces sons. C'est marrant.
Ouais.
À quoi ça vous fait penser?
Une porte.
Ok.
Ouais, une porte. Ou alors quelqu'un qui saute sur un truc.
Très bien.
Une caisse.
Son numéro 2.
Quelqu'un qui marche dans un endroit où il y a des oiseaux, mais en même temps il y a de la neige sur le sol.
Ouais, okay. Et puis qui parle. Non, qui a son portable dans la poche.
Tchernobyl.
Je sais pas, quelqu'un qui marche, qui a son portable dans la poche et qui discute à côté.
D'accord.
Ou son portable dans la poche.
Dans la poche.
Il y a quelqu'un qui parle.
Ouais.
Eh bien, non. Ce n'est ni une porte, ni quelqu'un qui parle. C'est Reaper. Et Reaper, c'est un canard. Et donc, mes mots de cette semaine sont canard et imitation.
Ah,
ah ouais.
Ok.
Donc, effectivement, Reaper, c'est un canard qui avait 4 ans en 1987.
1987, ça fait un petit bout de temps.
Ça fait un petit bout de temps. Et donc, en 1987, on a pu enregistrer ce canard qui faisait des bruits peu canardesques.
Juste une question. Reaper, c'est le prénom de ce canard?
Oui.
Ou c'est genre une espèce de canard?
Non, c'est le prénom de ce canard.
Ok.
Et du coup, je vous laisse deviner d'où vient ce canard. Donc, c'est un canard qui est tout noir, qui s'appelle Reaper, ce qui veut dire éventreur en anglais, oui. Qui fait des bruits de portes de films d'horreur. Et donc, si on entend un petit peu mieux ce qu'il dit, les paroles qu'il semble dire, c'est « you bloody fool », soit « espèce d'imbécile ». Donc, un canard qui t'insulte.
Ok.
D'où vient ce canard?
Je pense qu'il vient d'une femme américaine dont le prénom commence par un K et finit par un N.
De l'enfer, peut-être.
Ah, peut-être, pas mal. L'enfer sur Terre, en termes d'animaux?
Australie.
Voilà.
C'est vrai, j'étais pas loin.
Voilà. Donc, effectivement, c'est un canard australien. Et donc, ils en parlent dans un article qui a été publié en février dernier dans la revue Philosophical Transactions of the Royal Society par donc Karel ten Cate et Peter G. Follager, qui s'intitule « Apprentissage des imitations et production vocale chez l'Eris mature à barbillon ». Qui est l'espèce du canard.
L'espèce de Reaper.
Le Reaper. Donc Reaper, c'est un mâle donc de l'espèce Biura robata, qui a grandi en captivité près de Canberra, en Australie.
Attends, j'ai pas compris. T'as dit que l'espèce était je sais plus trop quoi, et après t'as dit...
Ouais, le nom scientifique, c'est Biura robata, et le nom vernaculaire en français, c'est l'Eris mature à barbillon.
Ce qui n'est pas beaucoup plus simple que Biura
voilà,
robata.
Ils sont des canards tout noirs, avec une espèce de grosse protubérance sous le bec.
Des canoirs.
Des canoirs. Et donc, on s'attend en général à ce qu'un perroquet puisse parler, un canard quand même beaucoup moins. Et pourtant, donc, Reaper a été enregistré sur cassette en 1987, du coup, en faisant des bruits, comme vous l'avez entendu, des bruits de porte, et en semblant dire des paroles, ils ne savent pas trop si c'est « you bloody fool », donc « espèce d'imbécile », ou « you bloody food », donc « fichu nourriture ».
Ok.
Et
dans les deux cas, c'est quand même ouf.
C'est quand même ouf. Et il y a un troisième enregistrement que je ne vous ai pas passé, parce que c'était celui-là le plus impressionnant, où il fait un bruit de porte, un espèce de marmonnement après, comme s'il parlait dans sa barbe. Dans son barbillon, du coup.
T'imagines, tu lui montres un film d'horreur et après tu le laisses autour
ouais,
de chez toi.
Je pense que c'est terrifiant. Voilà. Et du coup, les chercheurs de cette étude, ils ont comparé ces enregistrements de canards à des sonogrammes qu'ils ont faits, donc d'une porte et d'une personne qui parle. Donc les sonogrammes, c'est
voilà,
des...
Voilà, c'est ça ma question. C'est quoi un sonogramme?
Donc c'est une représentation visuelle d'un enregistrement.
Ok.
Donc ça fait des espèces de graphiques qui représentent le son qui passe.
Comme quand on regarde des experts et qu'il y a un coup de téléphone du tueur et qu'il regarde
ouais,
les trucs en disant c'est bon, c'est la même voix.
Exactement. Du coup là, ils ont pris une porte battante métallique qui semblèrent qui représentaient le premier son, et donc un homme qui parle pour le deuxième son. Et ce qu'ils ont pu voir, c'est que c'est parfaitement superposable pour la porte. Donc ce qu'ils expliquent, c'est
donc
que pour
c'est pas, excuse-moi, mais du coup ça veut dire que c'est vraiment, en fait les sonogrammes sont les mêmes.
Exactement, donc ça veut dire que c'est exactement le même son, donc pour la porte en tout cas. Ce qu'ils décrivent comme un son qui fait huc huc ou huc huc ou. C'est écrit en toutes lettres.
C'est de la phonétique.
Non, c'est écrit W-H-U-K, W-H-U-K.
Ok.
Donc voilà, et juste le son du canard, il a un léger bouh à la fin.
Bien sûr.
Voilà. Et donc pour la porte, c'est exactement la même. Pour les deux, la voix, c'est, ça se superpose bien, mais c'est pas exactement la même parce qu'ils n'ont pas pu trouver la personne de qui s'est inspiré ce canard. Oui. Donc la voix n'est pas exactement la même, mais les intonations sont les mêmes. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce canard se mette à parler ? Donc il se trouve que, comme je vous l'ai dit, Reaper, c'est un canard qui a été élevé en captivité.
Parce que, excuse-moi.
Oui.
Ça veut dire que les autres individus de cette espèce de canard ne font pas ce genre de choses.
Je vais y venir.
Ok, pardon.
Donc, il a été enlevé en captivité, donc il a été trouvé en tant qu'œuf, en 1983. Et c'était le seul canard de cette espèce qu'ils avaient en captivité à ce moment-là. Donc, une fois éclos, il a été élevé et nourri par main humaine, et pendant ses premières semaines, il a été élevé donc, dans une structure improvisée sous une lampe chauffante, avec un évier rempli d'eau, donc dans une pièce. Et ensuite, quand une fois qu'il était assez grand, il a été transféré dans une mare avec d'autres canards, mais toujours pas de la même espèce. Et donc voilà. Or, il se trouve que chez cette espèce, les éris matures à barbillon, les canetons, ils restent très longtemps avec la mère, donc plusieurs mois. Alors qu'un canard, comme ce qu'on a chez nous, on est plus autour de 2-3 semaines.
D'accord, ah oui.
Donc ils restent très longtemps avec les mères. Et... l'hypothèse qui est avancée par les chercheurs, c'est que d'habitude, les canetons, ils apprennent les bruits caractéristiques de leur espèce avec
leur mère
et surtout avec les mâles qui ont une parade nuptiale qui est très bruyante.
D'accord.
Donc les bruits caractéristiques de l'espèce, ils l'apprennent avec d'autres animaux de leur espèce. Sauf que là, ce canard, il a été élevé par main humaine et isolé des autres. Donc en fait, les bruits qu'il a appris quand il était petit, c'était le bruit de la porte battante de là où il a été élevé.
C'est un peu triste, du coup.
Celle de son soigneur.
Ouais.
Du coup, ici, c'est un apprentissage qu'on connaissait pas, mais qui s'est fait comme ça. Et donc, oui.
Ce que tu es en train de dire, c'est que si les canards disent coin-coin, c'est parce que leurs parents disent coin-coin.
Cette espèce, en particulier. Les autres, ça n'a pas été étudié.
Non, mais du coup, tu disais que les autres... Ah non, non, d'accord, pardon, excuse-moi. Ok, j'ai rien.
Donc, tu m'as demandé s'il y avait d'autres canards de cette espèce qui faisaient la même chose. Eh bien, il se trouve que oui. Et donc dans cette même étude, ils ont fait un enregistrement d'un autre canard, celui-ci en 2000, qui faisait non pas des bruits de porte ou des bruits d'autres humains, mais il imitait le son d'autres canards du Pacifique. C'est-à-dire qu'il faisait des bruits de canards, mais pas de canards comme lui.
Ok.
Donc voilà.
Il était bilingue.
Il était un peu bilingue canard. Bah je sais pas s'il parlait canard comme lui, finalement.
Ouais. Ouais.
Donc voilà, et on a également d'autres traces en Angleterre. Deux qui ont été importés en Angleterre, parce que c'est une espèce qui est uniquement en Australie d'habitude. Et donc cette fois-ci, on avait un canard qui imitait la toux de son maître, ou le reniflement d'un poney qui était voisin de chez lui. Et on en avait un autre qui imitait le grincement d'un tourniquet. Donc je pense que si t'as le canard tourniquet et le canard porte dans ta... chez
sympa,
toi,
ça.
Et que tu rentres à 2h du mat, ouais. En pleine descente...
C'est ça, en sortant du ciné où t'as vu un film d'horreur, je pense que c'est terrible.
Je pense que c'est un peu le tourment
de tête. Quel est l'intérêt pour eux de faire ça, en fait?
Du coup, c'est un apprentissage, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ce sera un apprentissage. Après, en fait, c'est difficile d'en savoir plus sur ce mécanisme d'apprentissage, quand est-ce que ça se fait exactement. Parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a eu en 2003, il y a eu un grand feu dans la réserve où ils étaient, et donc ils ont perdu énormément de documents. Notamment, quand est-ce que, à quel âge ils l'ont mis dans une mare avec d'autres canards, à quel moment, parce qu'il y a eu un moment... ou plus tard, ils ont mis d'autres canards de son espèce avec lui. Donc tout ça, on ne sait pas trop quand est-ce que ça peut se faire, puisque les documents ont disparu.
Ouais.
Mais ce serait un apprentissage, et ce serait du coup un mécanisme chez les oiseaux qu'on n'a pas vu autre que chez les perroquets et certains ménates.
Mais on est d'accord que ça n'a rien à voir avec cet oiseau, je crois que c'est l'oiseau lyre, tu sais, qui arrive à refaire exactement les bruits qu'il entend autour de lui. Je ne sais pas si tu as déjà entendu
parler. J'en ai déjà entendu parler, ouais. Mais là, je pense que c'est plus un apprentissage, parce que ce canard en particulier, il faisait deux ou trois sons différents.
C'était oui, pas... d'accord, il pouvait pas imiter n'importe quoi. Ouais. Il imitait ce qu'il avait entendu quand il était tout petit. Quoi.
Ouais, c'est ça. Donc ça allait supposer que cet apprentissage, il est assez limité dans le temps et que tu peux pas...
Ok, d'accord. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'individus de cette espèce qu'on connaît, qu'on a en captivité et tout.
Qu'on a en captivité, ça je sais pas, parce que là, du coup, ils étaient quelques-uns dans une réserve en Australie.
Ah oui, mais enfin, les autres, ils apprennent normalement.
Voilà, donc, je pense que ouais. Les autres, ils apprennent ouais. avec leur famille de canards. Donc,
ils parlent le canard.
Ils parlent le canard couramment.
Entre, de père en fils, quoi, de caneton en canard.
Oui, après, peut-être qu'il y en a qui apprennent d'autres choses, après, ils sont reniés par leur famille canard, on sait pas.
Peut-être. Mais, ça serait un peu triste.
Et voilà.
Ok. Bah, c'était fou. Tu peux remettre les sons, ouais. maintenant qu'on sait ça.
Donc, la porte.
Ah, ça fait bizarre quand même.
Et le deuxième.
Moi j'entends, je peux pas laisser.
Oui, on l'entend quand on sait ce qu'il est censé dire. Ouais. Mais...
On se demande comment ils arrivent à faire le son en fait. Enfin, comment ils ont la. Oui, je sais pas si c'est des cordes vocales ont...
ouais,
ou des.
Ouais.
Oui, quand tu vois déjà que genre nous en tant que français on a du mal à faire la rota espagnole.
Ouais.
Tu dis que c'est fou que le canard il arrive à faire la porte sans problème quoi. Mm.
On se demande ce qui cogne dans sa, dans, ouais. sa ouais. dans son bec. Ça, bah, c'est peut-être ton bec.
Oui, et puis ça peut être le fait est que ça peut être plein de sons. Ça peut être une voix, ça peut être un son ouais, de porte, ouais, ça peut être un son de
large,
poney,
quoi.
Un ouais. tourniquet qui grince. Il y en a même un où il disait qu'ils avaient l'air de vouloir dire hello. Imagine ton canard, il te dit hello. Après, il fait un grincement de tourniquet.
Ok. Et après, il fait un bébé qui pleure, tu sais.
Bon, ok, ça suffit le canard.
Eh bien, merci beaucoup, c'était assez fou.
Eh bien, de rien.
Et je me tourne vers toi, Antoine, qui va nous parler de Stradivarius et oui. de vernis.
Et de bois. Ah, et de bois, et ça, de ça bois. A changé entre-temps, ouais.
D'accord.
Donc, Stradivarius, tout le monde le connaît, ou presque. C'était Antonio Giacomo Stradivari.
C'est quand même un nom de famille très stylé.
Ouais,
trouve.
Stradivarius, c'est quand même...
Ça fait un peu nom de méchant, ouais. mais en même temps de
un
méchant
bon pseudo,
stylé.
Je pense
ouais.
que c'est très russe, quand même.
Peut-être. Mais en tout cas, c'est un luthier italien qui est donc très connu et qui a vécu au XVIIe siècle et qui a exercé à côté de Milan et qui a construit 600 violons et quelques violoncelles, alto et guitare. Donc c'était un grand luthier de l'époque qui est considéré comme l'un des meilleurs luthiers qui ait existé puisque ces instruments, donc qu'on appelle les Stradivarius, sont aujourd'hui dans des musées mais sont encore utilisés... par des musiciens
par
quoi musiciens. Et à chaque fois enfin c'est ça vaut à chaque fois quelques millions d'euros l'instrument quoi donc en gros sur ce sujet-là il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés sur la question de savoir pourquoi les Stradivarius étaient vraiment
parce que ils sont meilleurs. Vraiment meilleurs ou c'est une hype
je vais y venir
ok
mais quand même c'est un truc qui est connu dans le monde un peu de la musique les Stradivarius
oui,
ça
oui,
fait
ça, oui.
Voilà.
Est-ce que ce serait pas un biais du fait que, comme c'est très cher, c'est des très bons musiciens qui l'ont, et du coup, comme c'est des très bons musiciens, bah, ça fait des...
Peut-être aussi.
C'est possible. Très bon je pense son. Que vous avez beaucoup trop écouté Impact Factor 1000, et vous êtes beaucoup trop...
Un esprit critique.
Voilà, esprit critique de malade, quoi. Mais en gros, jusqu'à présent, les principales hypothèses pour ça, il y en avait plein, mais les principales, c'était, par exemple, le climat. Il y a des climatologues qui ont essayé d'expliquer le son des Stradivarius... à cause de la petite ère glaciaire qu'il y a eu à la fin du XVIIe siècle et qui aurait ralenti la croissance des arbres et donc changé leur composition.
Je pense que t'es un peu vénère quand t'es un musicien, ça fait genre toute ta vie tu t'es entraîné et là on dit non mais c'est à cause de la mini-ère glaciaire, c'est pas toi quoi.
Donc ça c'est à chaque fois elles sont un peu folles les explications et un peu quand même tu te dis bon ok mais ça reste un instrument de musique
ouais.
ils vont chercher très loin quoi. Donc il y a aussi une hypothèse, oui il y a l'hypothèse, moi c'est celle que je connaissais, c'est l'hypothèse un peu mathématique et géométrique qui dit que en gros la forme des Stradivarius suit une formule complexe qui est basée sur le nombre d'or et qui fait qu'il sonne très bien.
Ouais, mais on sait que le nombre d'or c'est un peu du bullshit et surtout si c'est le cas... Enfin, tout le monde est capable de reproduire la forme des Stradivarius.
Ouais, ouais. Et puis, en fait, ça a été. En fait, il y a eu des reproductions de Stradivarius.
Bah
il
oui.
y a des gens qui ont essayé de refaire.
Et ça donnait des sons moins bien.
Ben, je sais pas exactement, mais en tout cas, ça a été refait et bon, c'est pas prouvé encore comme hypothèse. Et surtout, il y a une hypothèse qui était celle du vernis, qui a duré pendant 250 ans, je crois. où on disait que, en gros, le vernis des Stradivarius était spécial, qu'il était composé d'extraits de peau, d'esturgeon, de propolis, qui est une sorte de miel fait par les abeilles. Et il y a quelques années, on a prouvé qu'en fait, le vernis était plus ou moins normal et que ça ne pouvait pas être lié à ça. En revanche, il y a donc la dernière hypothèse, c'est assez récent, c'est l'histoire d'un pesticide qui était utilisé à l'époque. Et en fait, c'était une sorte de traitement qui était utilisé sur les bois et qui aurait cassé à l'échelle moléculaire dans le bois un composant du bois qui s'appelle l'hémicellulose et qui aurait changé sa structure et sa façon de raisonner, quoi.
Donc du coup, ce serait le bois en lui-même, le choix du bois en lui-même qui serait à l'origine du son particulier des
Stradivarius. Ouais, ce serait le traitement du bois. Le traitement du bois, alors je crois que c'est du borax. C'est un traitement particulier. Okay. Voilà. Et donc ça date plus ou moins de 2009. Pardon. Et c'est un chercheur qui s'appelle Nagy Vari de l'Université du Texas qui a publié un article là-dessus. Et alors le problème, c'est qu'il a fait cette étude sur deux violons Stradivarius. Et quelques témoins, mais en gros très peu d'échantillons.
Là déjà, t'exploses ton budget de recherche avec deux Stradivarius.
Après, il a besoin de quelques échantillons, tu vois. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais bah, ils ont fait une sorte
biopsie,
de ouais voilà, un truc comme ça.
Ah ouais, mais je pense que les gars, ils sont, tu touches pas en
donc
fait.
C'est compliqué en fait de faire des études sur. En plus, c'est des études destructives en général,
bah
quoi.
Ouais.
C'est des études de chimie comme ça, de composition. Donc c'est compliqué, et c'était, même avec cet article, c'était pas vraiment prouvé, quoi. Et cet été, il y a un article qui est sorti, supplémentaire, donc en juin, je crois. Et moi, l'article que j'ai vu, c'était un article de vulgarisation du site Ars Technica du 17 septembre, donc c'est aujourd'hui. On voit que j'ai bien préparé mon sujet à l'avance. L'article qui s'intitule « Study confirms superior sound of Stradivari is due to the varnish ». Donc varnish, c'est vernis. Et donc en fait, le titre de cet article, enfin, je veux dire, est faux. Ils n'ont pas compris le.
En français, du coup, ça donne
ça veut dire vernis. Bah, ça veut dire vernis. Ça veut dire que la nouvelle étude
confirme que.
Alors qu'en fait, justement, cette étude, je vais y venir, qui est sortie cet été, elle concerne la même hypothèse, qui est la composition du bois cause des traitements. Donc bon, ils n'ont pas trop compris le truc. Mais en revanche, l'étude en question, elle est beaucoup plus sérieuse que celle d'avant, puisqu'elle est faite sur... alors attends, donc c'est... Ouais, donc déjà, il y a 30 auteurs de l'Université de Taïwan. Donc le premier auteur s'appelle Sheng Kuang Su. Et dans les auteurs, il y a notamment cette personne qui a déjà publié un article. Et donc j'imagine...
Le même que celui du Texas ?
Ouais. Donc d'accord. En fait, j'imagine qu'il est allé voir les gens de Taïwan et qu'il avait accès
à
plus de Stradivarius. Donc, en l'occurrence...
Effectivement, est-ce qu'au pluriel, on dit Stradivari ?
Ouais, vu que c'est plus ou moins du latin, je crois, ou de l'italien.
Ouais.
Oui. Et donc, cette fois-ci, ils ont 12 violons et violoncelles, dont 8 Stradivarius et 2 Guarneri, c'est un autre luthier de l'époque. Plus quelques échantillons témoins de bois différents, d'instruments récents, etc. Donc c'est quand même plus sérieux comme étude. Et ils ont utilisé un synchrotron. Donc un synchrotron, c'est un accélérateur de particules qui est en forme de cercle, de quelques centaines de mètres de diamètre, de circonférence, et qui accélère des particules. Et ces particules vont faire un faisceau de rayons X de très bonne qualité, très pure, et qui sert notamment à l'analyse dans les musées, des tableaux, des échantillons comme ça,
assez fragiles. Pour donc étudier la composition du bois.
Voilà, et donc en fait, c'est des rayons X, donc on étudie la composition du bois par diffraction à rayons X. Donc en gros, on envoie ces rayons X sur le bois, ça fait une sorte de tâche qu'on mesure avec une caméra. Et en fonction de la forme de la tâche, on peut déterminer la composition très précise de l'échantillon. Et donc, en gros, cette étude a confirmé qu'un traitement spécial a été utilisé par Stradivarius et Guarneri.
En plus, c'est pas destructif ?
Si, c'est plus ou moins destructif. Quand j'ai regardé le matériel et les méthodes, c'est... En gros, ils prennent un petit morceau de bois, ils le collent avec du scotch dans le faisceau.
Ah d'accord, ils mettent pas genre... Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils mettent pas directement l'instrument ?
Il pourrait, mais t'as besoin de... Je crois que c'est... Je me demande si c'est pas sous vide, en plus.
Ah, ouais. Ouais.
Donc non, t'as besoin d'un petit échantillon, quand même.
Ok, d'accord. Pardon.
Donc, il confirme qu'un traitement spécial est utilisé pour le bois, mais en revanche...
Donc, tu sais, par Garnery et Stradivarius.
Et Stradivarius.
C'est le même vernis, en fait.
C'est pas un vernis, c'est le traitement du bois.
D'accord.
Donc, le vernis, ça n'a rien à voir. C'était une hypothèse qu'on avait jusqu'à maintenant, mais qui a été infirmée. Mmh. Voilà. Et en revanche, il n'y a pas de lien entre cette composition spéciale et un potentiel effet acoustique meilleur, quoi. Donc, OK, il valide le fait qu'ils avaient un traitement différent. Mais en revanche, ben...
Comment ils peuvent invalider que c'est... Parce qu'ils avaient un traitement différent, donc les Garnery,
ouais,
et les Stradivarius.
Ouais, les deux avaient plus ou moins le même traitement et il était différent des traitements...
Mais comment ils peuvent confirmer que ce traitement n'est pas responsable de l'acoustique?
Parce que les Garnery ne sonnent pas pareil que les Stradivarius.
En fait,
oui, mais comme ils ont deux traitements différents.
Non, mais en fait, c'est juste qu'ils ont pas fait le lien entre la composition du bois et le son du
ouais,
violon.
Mais du coup, ils n'infirment pas l'hypothèse.
Non, ils n'infirment rien. Ils disent, en fait, finalement, la conclusion, bah, c'est juste la composition est différente, mais...
Ouais, mais en soi, l'effet sur l'acoustique, ils ne le connaissent pas du tout,
ouais,
et ils ne l'ont pas testé.
Ouais.
D'accord.
Donc finalement, bah, tu vois, quand tu lis un article comme ça sur un site,
ouais,
internet, tu te dis, oh, super, on a découvert le mystère,
ouais,
des Stradivarius.
Du vernis des Stradivarius.
Et en fait, quand tu lis le truc...
ça doit apporter plein de choses dans le domaine.
Ouais, voilà.
Mais en revanche, comparé au titre de l'article...
C'est ce que je voulais dire. C'est qu'en gros, ça a quand même un intérêt historique. Et j'imagine que tous les musicologues et tous les gens qui étudient tout ça trouvent ça intéressant. Mais ça prouve pas grand chose et ça explique encore moins de choses, quoi.
Ouais, c'est des résultats. De toute façon, quand tu fais de la recherche, t'arrives jamais avec un article qui aboutit sur la question que tu te poses depuis le début. C'est toujours plusieurs articles qui te permettent de poser les jalons pour répondre à la question.
Voilà.
Et qui vont en plus ouvrir d'autres portes après pour.
Potentiellement, ce sera une marche après. Mm-hmm. Si effectivement c'est lié à ça, bah, on se basera là-dessus. Mais en attendant, il n'y a pas de conclusion principale.
Ouais.
Et quelque chose que je voulais ajouter quand même, c'est que du coup je me suis un peu renseigné sur est-ce qu'un Stradivarius est vraiment mieux qu'un autre instrument, et donc il y a eu plusieurs études en double aveugle assez récentes de 2011 et 2017.
Donc double aveugle, ça veut dire que la personne qui joue de la musique ne sait pas quel instrument elle a en main, et la personne qui écoute la musique ne sait pas quel instrument
le musicien
a en main.
Et ça, en revanche, la conclusion de ces tests là ça a été que quelqu'un qui écoute un instrument, des instruments issus de ces tests-là, ne savent pas vraiment faire la différence entre un Stradivarius et...
Oui, donc c'est un peu genre Apple, quoi. C'est genre... c'est un peu un coup de com', quoi.
Après, c'est peut-être très bien pour d'autres raisons, mais en tout cas, la qualité acoustique supérieure des Stradivarius, pour l'instant, est pas vraiment...
Pour l'oreille humaine,
Pour notre oreille, n'est pas vraiment prouvée, quoi.
Mais ils ont pris des gens qui ont l'habitude d'entendre de la musique, ou ils ont pris des...
Oui,
des...
je crois, ils ont fait ça sérieusement. Donc, ça reste encore un mystère. On peut toujours fantasmer sur les Stradivarius, mais... Mmh. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des millions juste pour la qualité sonore? C'est pas sûr. En revanche, pour l'objet, en tant qu'objet historique, oui.
C'est clair qu'en vrai...
C'est ainsi que le cours du Stradivarius chute
suite à un épisode d'Impact Factor 1000.
Et le dernier truc que je voulais dire, c'est que, à mon avis, de très loin, ce genre de performance sonore, etc., ça doit dépendre de plein de choses. Enfin, ça doit sûrement être lié à la forme, à la composition, à tout ça. C'est un ensemble de choses aussi qui fait...
Et puis, au-delà de ça, t'as aussi l'acoustique de la salle dans laquelle tu joues, le musicien...
Le micro. Mais ça paraît fou. En fait, c'est des trucs où tu dis, forcément, on a la réponse déjà. Mmh. Mais en fait, c'est des choses qui sont tellement difficiles à mettre en place que, non, on n'a pas la réponse à des questions comme ça. Quoi. Mmh. OK. Merci beaucoup. Moi, je vais passer au dernier sujet, qui porte donc sur vaches et toilettes, et qui vraiment pourrait presque se résumer à ça, puisque des chercheurs d'instituts allemands et de Nouvelle-Zélande se sont demandé si on pouvait apprendre à des vaches à aller aux toilettes. Il faut savoir quand même qu'une vache, en fonction de la race de vache, c'est entre 10 et 30 litres d'urine par jour, et ça peut aller jusqu'à 30 kilos de bouse de vache par jour.
Ouais, faut pas les faire boire du thé.
Et donc, pour répondre à ces questions, les auteurs, alors je ne vais pas tous les citer, mais en tout cas, Neil Dirksen, Jan Langben et Lindsay Matthews donc d'instituts allemands et néo-zélandais, ont fait des expériences comportementales sur des veaux, et ils ont publié donc leurs résultats dans Current Biology, donc qui est un journal scientifique, là cette semaine. Et dans leurs expériences, ils ont pris 16 veaux, de race Holstein. Donc c'est que des femelles qui sont arrivées, qui avaient tout à peu près le même nombre, le même âge, quoi. Donc ils sont arrivés à 119 jours à peu près. Et ils les ont placées dans un petit habitacle, donc quelque chose, je crois que ça fait genre 2 mètres sur 2 mètres, qu'ils ont appelé le Moo Loo. Donc parce que Moo, c'est le son de la vache, et Loo, c'est toilette en anglais. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils ont laissé les animaux dans ces petits habitacles. Ils leur ont injecté un diurétique, c'est-à-dire une substance qui leur donne envie d'uriner. Et à chaque fois que les animaux urinaient, on leur donnait une récompense, c'est-à-dire qu'il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait et ils avaient des granulés. Et ça, c'est la première expérience, c'est le début de la méthode qu'ils ont utilisée pour leur apprendre à aller aux toilettes, qui est déjà d'essayer de faire comprendre que uriner, récompense, il y a un lien. Et pour vérifier que les animaux arrivaient à faire ce lien, ils ont mesuré le temps d'orientation vers la récompense, c'est-à-dire que la fenêtre, elle est que d'un côté de l'habitacle, et donc si l'animal avait compris qu'il y avait un lien entre récompense et urine, ça veut dire que dès qu'il urine, il se retourne directement vers la fenêtre. Ouais. S'il n'a pas compris, bah c'est qu'en fait, juste il urine dans n'importe quel sens, et puis à un moment ça s'ouvre, il fait tiens, qu'est-ce que c'est que ça, il va voir. Et donc en gros, c'est comme ça qu'on capte si eux justement ont capté qu'il y avait un lien. Et sur les 16 veaux, il y en a 10 qui effectivement se retournent rapidement vers la récompense après avoir uriné, donc qui ont compris qu'il y avait un lien. Après ça, ils ont pris ces mêmes 16 veaux, et en plus du petit habitacle, donc du Moo Loo, ils ont ouvert un petit couloir pas très long dans lequel ils ont mis les veaux. Et là, en fait, le but de cette deuxième expérience, c'est de voir si les veaux vont faire l'effort d'aller aux toilettes, c'est-à-dire est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait un endroit géographique où, ouais. Où il fallait aller pour uriner. Et alors, si j'urine dans le Moo Loo, ils ont, comme d'habitude, une récompense. Et s'ils urinent dans le couloir, ils ont une punition.
C'est horrible.
Non mais, alors, c'est assez marrant parce qu'au début, la punition, c'était d'écouter, c'était un son pas agréable. Mm-hmm. Et en fait, les voix n'avaient rien à faire. Et du coup, la punition, et c'est vraiment entre guillemets que je dis ça, c'est une petite douche de 5 secondes d'eau. Ah oui,
ils leur ont mis un canard avec des... un grincement de tourniquet.
Et du coup, je me suis dit, Fifty Shades of Grey aurait vraiment une autre histoire si la punition, c'était une douche.
Un petit pipi comme les chats, là. Oui.
Donc voilà. Donc ça, c'est si commencent à uriner dans le couloir. Et donc, en fait, là, il y a ceux qui vont complètement uriner dans le couloir et ceux qui vont commencer et se dire « Ah bah oui, non, c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça. » Et qui vont aller bien dans les toilettes. Et donc, d'ailleurs, sur les 16, il y a 11 veaux qui réussissent à se retenir et à utiliser les toilettes.
Oh, il y en a un qui s'est bien rattrapé, qui en avait que 10.
Oui, il y en a.
Bon deuxième
semestre. Les encouragements ont été utiles. Mais d'ailleurs, ils disent qu'ils pensent que ceux qui n'ont pas réussi, c'est peut-être plus une question de temps qu'on leur a laissé. Mm-hmm. Parce qu'ils se sont arrêtés, je crois, à 15 ou 20 sessions. Mais ils disent que si ça se trouve, il y aura toujours des veaux qui n'y arriveront pas. Mais que ceux qui n'ont pas réussi, ça se trouve, si on leur avait fait plus de sessions, ils auraient réussi. Donc ça veut dire que sur 11 des 16 veaux réussissent à utiliser les toilettes. Donc ont bien compris qu'il y avait un endroit pour uriner. Et donc l'expérience suivante, c'est de prendre ces 11 veaux et de les replacer dans ce couloir, mais cette fois-ci c'est un couloir qui... Enfin, ils ont agrandi le couloir, en fait, ils l'ont ouvert. Et du coup la question là, c'est est-ce que les veaux sont capables de se retenir? Parce qu'en fait, c'était pas du tout une assurance qu'un animal soit capable d'utiliser ses sphincters et de se retenir de juste uriner, quoi. Donc c'était la question de cette dernière expérience. Et là, 10 des 11 veaux utilisent encore correctement les toilettes, et donc ça veut dire arrivent même quand ils sont un peu loin à se retenir avant d'aller aux toilettes. Et ce qui est assez marrant, c'est que ces résultats, finalement, c'est assez similaire à ceux qu'on peut obtenir pour des enfants, voire c'est supérieur pour des très petits enfants. mais du coup, c'est assez intéressant parce que Du coup, ça veut dire que déjà que tu peux formater un peu, j'arrive pas à retrouver le mot qu'on est censé
conditionner.
Ouais, voilà, conditionner les veaux pour lier, tu vois, besoins et nourriture et les faire se retenir, ce qui était une des questions. Et alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de faire
ouais,
ça ?
Ouais, j'allais poser la question.
Bah, l'intérêt est déjà scientifique, c'est en termes physiologiques qu'on en apprend, en termes neurologiques qu'on apprend, parce que ouais, voilà, on apprend que la vache est voilà, comportementale, on apprend que la vache est capable de faire ça. Et effectivement, on peut aussi y trouver des intérêts écologiques, puisqu'on sait que l'agriculture, de manière générale, a un prix écologique qui est très lourd. Puisque c'est en gros la source de la moitié des rejets d'ammoniac de l'agriculture de manière générale. Et c'est vrai que l'ammoniac, bah, ça acidifie l'eau et les sols, donc c'est pas bon pour la biodiversité. Et notamment, bah, c'est entre autres hein, l'urine des bovins qui sont enfin, il y a énormément d'agriculture basée sur bovine, on va dire, voilà, qui donc rejette énormément d'urine et donc énormément de... d'ammoniac. Et en fait, il y a un paradoxe, puisque dans les fermes ouvertes, les fermes à pâturage, où les animaux sont en liberté, eh ben, les animaux vont être capables, vont du coup pouvoir disperser leurs urines partout. Et donc, dans tous les champs, dans toute la terre, en fait, s'infiltrer, leurs urines vont pouvoir s'infiltrer. Alors que, à l'inverse, dans des fermes qui sont de bien moins bonne qualité, où on va avoir de l'élevage en masse, par exemple, finalement, là, c'est beaucoup plus facile de récupérer les urines et de les traiter.
D'accord.
Donc
tu choisis un peu entre le bien-être animal et...
Bah, dans les deux cas, ça reste des animaux qui sont voués à être consommés. Donc,
ouais.
Mais l'impact de l'urine de vache est pas négligeable. C'est pas non plus c'est pas ce qui est le plus gros. Et disons que si on voulait vraiment le réduire, bah, on arrêterait l'élevage de vaches, enfin de bovins, ouais. Quoi. C'est sûr, c'est évident. Mais c'est deux questions qui sont différentes en fait, parce qu'effectivement. Je suis allée un peu regarder les réactions à cet article, et en dessous des articles comme ça, c'est beaucoup de « ouais, mais c'est une manière de justifier, de pouvoir accepter, de faire accepter ça, etc. » De faire accepter donc l'élevage de bovins. Alors déjà, c'est d'abord une question scientifique avant d'être une question de lobby, parce que c'est des instituts, donc c'est pas des... ça n'a pas été financé par un lobby
de l'agriculture.
De l'agriculture, quoi. Mais c'est aussi des questions qui sont différentes de est-ce qu'on arrête l'agriculture ou est-ce qu'on essaie de faire une meilleure agriculture. Ben, tant qu'on l'arrête pas, autant faire une meilleure agriculture en fait.
Ouais.
Et en plus, l'urine de bovin, ça peut aussi être utilisé justement pour faire des engrais, etc. Parce qu'il y a des composants qui peuvent être utilisés. Donc c'est vrai que si on peut la récupérer, c'est de toute façon une meilleure chose.
Oui.
De toute façon, ça peut pas
la
être.
Consommation égale, c'est mieux quoi.
Voilà. Après, même si ça améliore, est-ce que déjà ça peut améliorer ça ? Et même si ça l'améliore, est-ce que ça vaut le coup ? Puisque bah, du coup, il y a un temps d'adaptation et un temps d'apprentissage qui peut mettre pas mal de temps, quoi. Est-ce que pour un éleveur, ça vaut le coup de se dire, bon, mes veaux, quand ils naissent, j'ai besoin d'une structure pour pouvoir leur apprendre à faire ça,
ouais.
Et je vais leur apprendre. Après, avec un peu de chance... tu peux te dire que de toute façon, les parents vont... enfin, à force de faire des générations, ça va s'apprendre. Mais c'est vrai que ça sera une question qui reste. Et en fait, c'est un peu des résultats préliminaires. Et du coup, il y a plein d'autres questions qui restent. Est-ce que c'est... Parce que là, c'est que pour l'urine, mais est-ce qu'on peut apprendre aussi pour la bouse de vache ? Il y a plein d'autres questions. Est-ce que justement, sur plusieurs générations, ça peut s'auto-apprendre ?
Est-ce qu'on peut leur apprendre à brouter avec une fourchette
ou... Est-ce qu'on peut les mettre à l'école, finalement ?
Ouais.
Oui, finalement, quelque part. Donc voilà, je trouve que il y a le côté écologique qui n'est pas essentiel, mais qui est déjà intéressant. Et puis il y a le côté comportemental que je trouve assez intéressant. Donc voilà pour ce sujet. Super. Sur les vaches et les toilettes. Et moi je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire si on aime bien la science et qu'on aime bien sortir ? Marion ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Bien, j'ai 4 trucs à vous proposer. Donc premièrement, le vendredi 24 septembre, c'est la nuit des chercheurs. Et donc, il y a dans 13 villes en métropole, plus à Saint-Denis à La Réunion, qui organisent donc des soirées avec donc des animations, des rencontres, peut-être des visites pour certaines. Donc vous avez 13 villes en France, un peu partout, qui organisent la nuit des chercheurs. Donc vous pouvez vous renseigner, savoir si près de vous, il y a des animations. Peut-être des chercheurs, s'il y a des animations qui sont organisées, si ça vous intéresse. Ensuite, le 28 septembre, le mardi 28 septembre à 20h30, il y a la conférence Microbiome marin, le peuple invisible de l'océan, qui a lieu à l'auditorium Hubert Curien à Rennes et qui est diffusée également en direct dans l'amphithéâtre du lycée Dupuis de l'Aume à Lorient et qui est en duplex avec la goélette Tara de la mission Tara Océan.
C'est quoi la mission Tara Océan ?
C'est des bateaux qui prélèvent des échantillons d'eau un peu partout dans, sur la planète et qui vont donc analyser cette eau partout.
C'est stylé.
C'est très stylé. Et du coup, ça parle donc de, justement de, des micro-organismes marins, de la pollution, tout ça. Tout ça.
Que des sujets... qui mettent de bonne humeur.
Voilà. Ensuite, jusqu'au 14 novembre, à Cap Science Bordeaux, il y a une exposition qui s'appelle « Esprit critique, détrompez-vous ». Et donc, qui est... justement sur comment développer son esprit critique. C'est une exposition connectée avec un bracelet qui vous permet donc de faire des choix au fur et à mesure de, de l'exposition, de donner le degré de confiance dans certaines infos qu'on vous donne, etc. Et donc c'est pour montrer donc comment vérifier ces infos, comment se méfier des idées préconçues, et tout ça.
Ouais.
Et dernière chose...
En tout cas, le titre est pas mal. Esprit critique, détrompez-vous, c'est pas mal.
Dernière chose, c'est si vous voulez pas sortir et que vous préférez rester chez vous. Le Planétarium de Reims propose donc une partie de propose des choses en ligne. Donc notamment, il y a des quiz, il y a des vidéos avec des ateliers pour les enfants, donc qui peuvent être construire des cartes du ciel, construire des maquettes. Il y en a plusieurs. Et il y a également, il propose également une auto-formation donc pour comment acheter et utiliser un télescope. Donc il y a 3 ou 4 vidéos qui vous permettent de faire le bon choix et d'utiliser un télescope comme il faut. Donc voilà, et comme la semaine dernière, les événements qui sont sur place sont soumis au pass sanitaire.
Ce sera peut-être bientôt plus le cas.
Peut-être que ce sera bientôt plus le cas.
J'espère.
Ouais. Pour l'instant, ça l'est. Mm. Donc prenez vos dispositions si vous voulez.
Ok, merci beaucoup. Eh bien, c'était le 21e épisode d'Impact Factor 1000. On espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines.